Il est 7h sur Europe 1.
On se sent mieux, beaucoup, beaucoup mieux. C'est tellement incroyable.
Ça y est, on est à la surface, on est stable. La première image est arrivée. On a entendu que le signal était très bon.
Soulagement et enthousiasme de l'astrophysicien français responsable de la super caméra embarquée sur le robot de la NASA. Atterrissage sur Mars réussi, mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. L'ancienne star du 20h de TF1, accusée de viol par une jeune écrivaine, affirmation mensongère, répond Patrick Poivre d'Arvor. Et puis dans ce journal, nous appellerons Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Elle est prête à autoriser les festivals cet été, mais pas plus de 5000 personnes et assise. Toute l'équipe du 7-9 s'installe. Bonjour Daniel Fortin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre éclairage écho juste après le journal.
Oui, alors je vais vous parler d'une petite réforme fiscale qui va faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.
A tout à l'heure, c'est à 7h15. Virginie Fulpin, bonjour à vous.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous aussi, vous avez hâte de retrouver les tribunes.
Oui, exactement, oui, vous parliez des festivals. Et si on organisait aussi des match-tests, hein, sur le modèle des concerts-tests qui devraient avoir lieu au printemps? Honnêtement, si c'est possible de faire revenir un public restreint dans les salles de concert, ça devrait aussi être possible dans les stades et les salles de sport. Alors allons-y.
Allons-y. L'édito sport tout à l'heure à 7h20. Le 7-9 démarre. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tout de suite, votre journal. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et d'abord, ce coup de tonnerre en pleine vague d'accusations d'agression sexuelle contre des hommes de pouvoir. Cette fois, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui est visé.
Oui, l'ancien présentateur vedette du 20h de TF1 est accusé de viol par Florence Porcel, romancière, blogueuse et comédienne. Elle a déposé plainte pour deux agressions en 2004 et 2009. PPDA récuse fermement. Il compte porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Il affirme, Guillaume Biais, qu'on cherche à l'instrumentaliser pour promouvoir le livre de la plaignante.
Oui, un roman fraîchement publié dans lequel Florence Porcel raconte son histoire, transposée dans le milieu du cinéma et sans jamais nommer son agresseur. Mais en réalité, c'est bien l'ancienne star du 20h qu'elle accuse de viol. Une première fois en 2004, lorsque jeune écrivaine de 21 ans, elle le rencontre après son JT à TF1. À l'époque, elle est en convalescence après une tumeur au cerveau et elle n'avait jamais eu d'expérience sexuelle. Une agression qui, si elle venait à être confirmée, est aujourd'hui prescrite. En revanche, ça n'est pas le cas du second viol dénoncé par Florence Porcel. Il aurait eu lieu en 2009 à l'occasion d'un entretien pour ses études. Il faut savoir qu'entre ces deux faits allégués, la jeune femme a entretenu des échanges avec Patrick Poivre d'Arvor et qu'ils auraient même eu une relation cette fois consentie, affirme-t-elle, évoquant durant toutes ces années une emprise de l'admiration et du déni. À l'heure où la parole se libère, elle a décidé de porter plainte. La police judiciaire parisienne est saisie d'une enquête depuis mercredi, d'après nos informations. Donc la plaignante n'a pas encore été entendue, encore moins PPDA qui n'a pas répondu à nos sollicitations.
Guillaume Biais, sachez par ailleurs que Georges Tron a décidé de se pourvoir en cassation après sa condamnation à 3 ans de prison pour viol. Il demande aussi sa remise en liberté.
Il s'appelle Persévérance et il a désormais son propre compte Twitter. C'est le robot de la NASA qui a réussi hier soir à se poser sur Mars.
Oui, il était 21h55 à Paris, lors d'Autriche, et c'est l'aboutissement d'années de travail pour des dizaines de scientifiques.
Et oui, dans la salle de contrôle de la NASA aux États-Unis hier soir, les ingénieurs ont bondi de leur chaise et applaudi dès qu'ils ont su que le robot s'était bien posé sur Mars. Atterrissage confirmé, le robot s'est bien posé et va pouvoir commencer à travailler. Alors les échecs sur Mars arrivent, ils le savaient, une mission sur deux se finit par un crash du robot, mais pas cette fois, alors que c'est l'engin le plus sophistiqué jamais envoyé sur Mars. Et seulement une minute après l'atterrissage, le robot envoyait sa première photo, prise à travers la vitre du robot, une image de ces paysages typiquement martiens, détaille l'astrophysicien Sylvestre Maurice.
C'est minéral, hein, c'est de la roche, du sable, l'ombre du rover au-dessus de nous, puisque c'était pris par des caméras qui sont très basses. Hein. Cette preuve par l'image qu'on est bien à la surface, oui.
Maintenant, au travail pour le robot ?
Oui, au travail. On va parler à l'instrument en disant « tu vas bien ». On espère qu'il va nous répondre « je vais bien ». Voilà, et maintenant, il faut quand même vérifier que tous ces systèmes aient survécu à toute cette entrée, ces chocs. Donc, je savoure chaque étape.
Voilà cet astrophysicien membre de la mission interrogé par Hélène Terzian. Alors, Persévérance va commencer à travailler dans de bonnes conditions sur Mars. Il n'y a pas en ce moment de tempête de poussière. Et puis, évidemment, le robot a été conçu pour résister aux changements de température de 20 degrés le jour jusqu'à moins 80 degrés la nuit.
Ouais. Persévérance, il y a 1 300 000 abonnés sur Twitter, pour être précis. Déjà.
C'est pas fini, ouais. Je pense. Hein.
Alors, Laure, on a de quoi être fier en France, hein, puisque nous sommes partie prenante de cette mission grâce à un engin baptisé Supercam.
Oui, dont la structure a été fabriquée dans une PME près de Toulouse. Supercam, c'est une caméra très sophistiquée, mais pas uniquement une caméra. Il y a à bord un micro. Et c'est la première fois qu'on va entendre clairement le son de la planète Mars. Le micro, en fait, va aider à détecter les meilleures roches. La caméra, avec son laser, va faire un bruit différent selon qu'elle pointera vers telle ou telle roche. On n'a jamais vraiment entendu le son de Mars, mais on sait à quoi ça devrait ressembler. Parce qu'il y a 3 ans, lors d'une précédente mission, on avait capté ce souffle. Un son qui était à peine audible, donc la fréquence avait à l'époque été augmentée, mais cette fois-ci, le bruit devrait être clairement différent. Alors l'atout de ce robot, c'est qu'il est capable de choisir les meilleures roches, de dire « ce caillou est meilleur que celui-ci ». Voilà, ce qui est certain, c'est qu'avec un bout de Mars, s'il est bien choisi, on peut raconter l'histoire de la planète.
Et vous savez quoi, Laure d'Autriche, ça me donne des frissons rien que de l'entendre.
On sent bien le vent de Mars, il y a beaucoup de vent sur Mars. Oui. Merci à vous, Laure d'Autriche. Emmanuel Macron a assisté en direct à l'atterrissage du robot de la NASA au siège du Parisien, du CNES, l'agence spatiale française. Et comme tous ceux qui ont vu les images, il était lui aussi très impressionné. Écoutez.
C'était extrêmement émouvant d'accompagner cette aventure scientifique, industrielle et humaine. C'était très extrêmement émouvant parce qu'on avait des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens pour qui ça représente des années de vie. Et qui ont, je crois, avec à la fois beaucoup de précision et d'émotion, qui nous ont fait partager ce moment. Mais je pense que ce soir, les Françaises et les Français peuvent être très fiers.
Oui, on est tous fiers et on est tous émus de ces images assez incroyables. Emmanuel Macron au CNES et de son côté, le président américain Joe Biden a lui salué un atterrissage historique, preuve du pouvoir de la science.
Il est 7h07 sur Europe 1. Le Vatican est prêt à licencier ses employés qui ne veulent pas se faire vacciner. On va en venir dans quelques minutes. Mais d'abord, la situation sanitaire en France. Olivier Véran prévient que l'heure n'est pas au relâchement.
Oui, pas de nouvelles mesures de restriction, mais pas non plus d'allègement. Le variant anglais représente désormais 36% des cas positifs. Et dès lundi, toute personne contaminée devra rester en isolement 10 jours au lieu de 7. Dans ce contexte, Roselyne Bachelot s'entretenait hier avec les directeurs des grands festivals de l'été. Et comme Europe 1 vous le dévoilait dans ce journal, ils pourront se tenir, mais il y a un mais avec 5000 spectateurs tous assis.
Et la ministre de la Culture est en ligne avec nous. Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans le journal de 7h ce matin. 5000 personnes, c'est une promesse ferme ou c'est sous condition?
Alors, effectivement, ce cadre pourra bouger si les conditions sanitaires s'améliorent. Bien entendu, nous pourrons desserrer les taux des 5000 personnes et peut-être, pourquoi pas, envisager soit des jauges mixtes debout assis, soit même debout. Mais j'ai fixé un cadre. Alors, il y a deux scénarios. Soit un certain nombre de festivals diront, écoutez, nous, notre modèle économique ne nous permet pas une jauge de 5000, nous avons besoin de plus et nous sommes obligés d'annuler et nous les aiderons à affronter leurs frais d'exploitation. D'autres, et c'est la majorité, sur les 200 festivals que nous avons interrogés, 83% sont disposés à changer le modèle et à privilégier la structure assise. Mais ils auront besoin d'adaptation, monter des gradins, par exemple, et nous les aiderons à procéder à ces adaptations parce que nous voulons absolument que les festivals puissent se tenir. Mais si, évidemment, pandémique s'aggravait et que les festivals soient obligés d'annuler, là aussi, nous prendrions en charge toute cette annulation, tous les frais qui auraient été engagés.
Donc, vraiment, vous annoncez un fonds de soutien de 30 millions d'euros
fonds de soutien de 30 millions d'euros pour les festivals qui sont si importants pour les territoires.
Roselyne Bachelot, est-ce que les spectateurs devront se faire tester avant d'accéder à ces festivals?
Alors, nous avons évidemment à mettre en place le protocole sanitaire. Ça, c'est un travail qui va être mené dans les jours qui viennent avec les professionnels, avec les autorités sanitaires. Aujourd'hui, nous avons situé le cadre général. Ça permet aux gens de s'organiser. Nous travaillons sur un certain nombre de modalités. Les conditions sanitaires, les protocoles sanitaires seront sans doute assez différents selon les organisations.
Roselyne Bachelot, vous avez donc reçu les professionnels de la musique. on parle des festivals, donc de concerts en extérieur. Qu'en est-il des salles fermées? Est-ce que vous allez recevoir les professionnels du théâtre, du cinéma qui, eux aussi, attendent des perspectives?
Bien entendu, nous les recevons. D'ailleurs, sur tous les secteurs de la culture, nous sommes en train de bâtir les protocoles résilients. La France est le pays qui fait le plus pour la culture, pour ses artistes. Nous continuons à protéger les citoyens dans leur santé. Je ne donne pas encore de date pour le reste des secteurs culturels, mais je reviendrai vers vous dès que tout cela sera fixé.
Très bien, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, d'avoir été en ligne sur Europe 1 ce matin. On sait déjà que le festival Solidaise est annulé. Les organisateurs avaient déjà pris la décision. Les Vieilles Charrues de leur côté vont s'adapter. En revanche, ce sera sans Céline Dion, qui devait chanter à Carré le 15 juillet devant 55 000 spectateurs.
Oui, Céline Dion qui a repoussé à 2022 l'ensemble de sa tournée en Europe. Direction l'Italie maintenant, où je vous le disais, le Vatican incite très fortement ses employés à se faire vacciner.
Oui, au point que tous ceux qui refusent risquent de lourdes sanctions, Blandine Hugonnet, et même de perdre leur emploi.
Oui, c'est ce qu'on peut lire dans un décret publié par le Saint-Siège. Un employé du pape qui refuse d'être vacciné risque des conséquences pouvant aller jusqu'au licenciement. Autrement dit, le Vatican impose désormais le vaccin sous peine de sanctions et pourtant, officiellement, la piqûre contre le Covid n'y est pas obligatoire. Ça fait évidemment beaucoup réagir ici au sein du plus petit état du monde. Parmi ces 5000 résidents et travailleurs, certains dénoncent un flicage, un manque de respect de la liberté de choisir. Le Saint-Siège se défend de vouloir instaurer une forme de répression. Il estime que refuser le vaccin, c'est mettre en danger la santé des autres. C'est en tout cas de la part du Vatican une attaque de plus contre les anti-vaccins. Avant même le début de la campagne de vaccination du Saint-Siège mi-janvier, le pape François avait accusé les opposants au vaccin de négationnisme suicidaire. Le chef de l'Église catholique de 84 ans a d'ailleurs été un des premiers à se faire administrer une dose du vaccin Pfizer derrière les murs du Vatican.
Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Et puisqu'on parle de vaccin, la France vient de passer la barre du million de personnes ayant reçu les deux doses.
Attention, eau non potable à Hermonville, c'est dans la Marne, tout près de Reims.
Oui, ça fait maintenant presque deux semaines que les quelques 1500 habitants ne peuvent plus boire l'eau du robinet, ni même se laver ou encore utiliser leur lave-vaisselle ou leur lave-linge. Tout ça à cause de deux bactéries. Vous allez tout comprendre grâce à ce reportage de Nicolas Feldman.
C'est le petit rituel, venir chercher l'eau tous les jours. Ah, c'est la galère.
C'est dans la cour de la mairie que s'entassent des centaines de packs d'eau, des bouteilles vitales pour remplacer cette eau du robinet devenue dangereuse pour les habitants.
À toute la rue de Reims, ils ont été malades. Et moi, je connais une famille, ils ont vomi, fripé, boyau le samedi et dimanche.
Ouais, l'eau, elle coule. Alors elle
c'est aussi le cas dans la famille de Sophie. Dès le 8 février, son fils Malo tombe malade.
Hécaton, c'est-à-dire que Malo est rentré du collège, vomissement, diarrhée, le chaos total. Là, on commence à comprendre qu'effectivement, il y a un souci avec l'eau. Malo est hospitalisé le mardi et dans la nuit du mardi au mercredi, c'est mon tour. Bilan, 4 malades sur 4, 3 hospitalisations.
Pour trouver une explication, il faut sortir du village. Au bout d'un chemin, un silo, à côté de grands bacs recueillent les eaux usées. C'est la station d'épuration d'Hermonville, gérée par le groupe Suez. Katia Beaujard, maire de la commune.
Suite à une erreur de manipulation, il y a eu de l'eau industrielle de la station qui s'est retrouvée dans le réseau d'eau potable. On est à 284 cas malades. Donc cette situation m'inquiète. Je m'interroge sur les conséquences de cette pollution à long terme.
La maire d'Hermonville qui a déposé plainte au nom de la commune. Une enquête a été ouverte en parallèle contre X pour blessures involontaires.
Nicolas Feldman à Hermonville dans la Marne, il a contacté Suez qui ne veut pas commenter une enquête en cours.
Les États-Unis, vous le savez, subissent une impressionnante vague de froid. En ce moment, 200 vols ont été annulés à New York. Au Texas, plus de 250 000 foyers sont encore privés d'électricité.
Un état particulièrement touché par la vague de froid de ces derniers jours. Autant dire que l'attitude du sénateur républicain Ted Cruz choque tout le pays. Mercredi, il a quitté le Texas, direction la station balnéaire mexicaine de Cancun. Face à la polémique, il est rentré dardard. Écoutez ses explications. Voilà, j'ai essayé d'être un bon père. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se diraient, si j'en ai les moyens, d'accord, c'est ce que je voulais faire. Voilà, donc c'est à cause de ses deux filles, a-t-il expliqué, qu'il est parti prendre un petit peu de chaleur au Mexique, à Cancun, et surnommé Ted le menteur à une époque. Maintenant, il a écopé d'un nouveau surnom, Flying Ted, Ted le volant.
Allez, justement, on va prendre l'air. On en a tous besoin en ce moment. Ce soir, si vous êtes en vacances, vous prévoyez peut-être de partir, vous aérez à la campagne, à la mer ou à la montagne.
Oui, entre le redout inespéré et le couvre-feu à 18h qui pèse sur le moral, on craque au dernier moment sur un coup de tête, comme cette famille de Clamart en région parisienne qu'a rencontré Damien Mestre.
On regarde par la fenêtre, on dit qu'il fait vraiment très moche. On aimerait bien aller se balader, mais pas en bas de la maison, quoi.
C'est au réveil, sur un coup de tête, que Sandrine a fini par réserver des vacances. 4 jours à la Baule, en bord de mer avec son mari et son fils. Visiblement, ça devenait nécessaire.
Ah bah une envie de changer d'air. Chaos, fatigué, et puis le fait de faire juste boulot, maison, je crois que vraiment, il y a un grand ras-le-bol.
Elle a tout préparé, sans rien dire à son mari, qui de toute façon était déjà convaincu.
Je crois qu'il a même pas regardé ce que je lui ai envoyé. Il m'a dit tout de suite, ok, il faut absolument qu'on parte.
Tout comme son fils, Axel, 15 ans, jogging et paire de chaussettes.
Je suis très content de partir, parce que je reste enfermé pendant une semaine.
Jusqu'à présent, il était vissé derrière son écran. Des vacances studieuses à suivre des cours de soutien.
C'est multiplié par l'inverse de la fraction.
Alors il a besoin de s'aérer l'esprit. Les maths en visio, ça commence à être long.
C'est en deux parties, le matin et l'après-midi. Ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave.
Ouais, vivement la mer, quoi.
Oui, vraiment, j'ai très très hâte.
Une fois au bord de l'eau, il s'est déjà promis de n'avoir ni téléphone, ni ordinateur.
Et si vous aussi vous rêvez de mer, par exemple, eh bien, vous allez peut-être pouvoir vous offrir de très belles vacances. Si vous êtes très chanceux, il y a un jackpot record de 202 millions d'euros en jeu aujourd'hui à l'euro-million. Et on rappelle quand même que c'est un Français qui avait remporté la mise de 200 millions en décembre dernier.
Ah ouais, mais pourquoi pas une deuxième fois ?
On peut rêver.
Sa chance. À tout à l'heure. Merci Hélène Zellani. 7h16.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Dans un instant, Daniel Fortin pour l'éclairage éco qui est déjà installé en studio et Vincent Hervouette pour son regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Sébastien, bonjour Daniel.
Qu'est-ce
bonjour.
Qui vous a intéressé ce matin ?
On va parler de Dubaï, l'émirat où personne n'est confiné sauf la fille de l'émir, jetée aux oubliettes.
A tout de suite, vous êtes sur Europe 1, le 7-9 continue. Bon réveil. Avec vous, Daniel Fortin, de la rédaction des Échos. On s'arrête donc ce matin sur cette mesure qui avait fait polémique l'année dernière, mais qui va quand même entrer en vigueur. Le fisc va bientôt pouvoir exploiter les données personnelles des citoyens sur les réseaux sociaux.
Oui, et si vous avez omis de signaler votre voiture de luxe aux impôts, évitez d'en poster des photos sur Facebook. Si vous avez aussi oublié de parler de votre piscine au percepteur, n'en faites pas trop la publicité sur Airbnb. Même chose si vous avez déclaré votre résidence fiscale en Belgique, mieux vaut éviter de tweeter chaque jour depuis votre maison du Luberon. Ce sont en effet toutes ces traces qu'on laisse parfois avec beaucoup de légèreté sur les réseaux dans lesquels le fisc va désormais pouvoir piocher. Et s'il détecte une fraude, il pourra opposer ses preuves aux contribuables. Le décret d'application qui prévoit ces mesures a été publié cette semaine. Alors attention, il ne s'agit encore que d'une expérimentation de 3 ans, mais ça y est, le dispositif entre en vigueur.
Et ce n'est pas considéré comme une atteinte aux libertés publiques ?
Alors si, c'est la critique qui avait été faite au moment où le projet avait été présenté. La CNIL avait exprimé son inquiétude dans un avis publié en 2019. Une partie des députés avait dénoncé à l'époque une mesure liberticide au point que le Conseil constitutionnel avait jugé que si le principe de la traque fiscale numérique était acceptable, il fallait quand même en limiter le champ. C'est ce qui a été fait par plusieurs amendements. Par exemple, seules les données publiques, c'est-à-dire celles qui ne sont pas couvertes par un mot de passe, pourront être exploitées. L'administration sera également tenue d'effacer les données qu'elle a récupérées au bout d'un certain délai. Bref, toute une série de garde-fous ont été mis en place. Mais le principal reste, le web devient bel et bien une sorte de mouchard qui permet de vérifier si votre train de vie ne dévie pas trop de ce que vous en dites aux impôts.
Est-ce qu'au moins cette mesure a des chances d'être efficace ?
Alors la réponse est oui, parce qu'elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large de surveillance numérique par le fisc. Ce ne sont évidemment pas les fonctionnaires qui feront chaque jour une veille physique sur les réseaux, mais l'algorithme d'analyse du risque de la Direction Générale des Finances Publiques. Il est modernisé en permanence pour traiter toujours plus de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près d'un quart des contrôles fiscaux sont déjà réalisés par l'intelligence artificielle. Le filet s'étend donc et en même temps ses mailles se resserrent. Dans ce contexte, la fraude fiscale va devenir un exercice de plus en plus difficile.
Un quart des contrôles fiscaux déjà réalisés par l'intelligence artificielle et la surveillance numérique, donc stratégie du fisc pour traquer les fraudeurs. Daniel Fortin de la rédaction des Échos. Vincent Hervouette, c'est à vous pour votre regard international et une princesse ce matin, la princesse Latifa Al Maktoum. 35 ans, c'est la fille de l'émir du Qatar. Et elle affirme être prisonnière dans cette vidéo qui a été dévoilée par la BBC. Je vous parle depuis la salle de bain, dit-elle, parce que c'est la seule porte que je peux fermer. Je suis retenue dans cette villa transformée en prison. Toutes les fenêtres ont été scellées. Voilà ce que raconte Latifa Al Maktoum. Vincent, les ONG en appellent aux Nations Unies pour la faire libérer.
L'appel à l'aide de Latifa Al Maktoum a fait le tour du monde. Il a mis le temps. La vidéo a été enregistrée il y a un an et demi. À l'été 2019, la pauvre fille riche, enterrée vivante après deux tentatives de fuite, faisait déjà peine à voir. Depuis, elle a disparu aux oubliettes. Son calvaire de princesse rebelle nous touche parce qu'il renvoie aux contes de fées européens, Casse-Noisette, Peau d'âne, Réponse, les contes de Perrault, de Grimm, d'Hoffmann. On pense même à Barbe Bleue, puisque la sixième épouse de l'émir s'est enfuie elle aussi à Londres avec ses enfants et 30 millions de dollars. Cette lumière crue sur la vie de famille chez les Maktoum est un crime de lèse-majesté, une gifle à l'émir qui soigne sa réputation de poète. Mais Michelle Bachelet, la haute représentante de l'ONU pour les droits de l'homme, va se heurter à un mur. Dans le golfe Persique, on ne rend compte à personne sur ce qui se passe derrière les murs de la maison et a fortiori derrière les portes du palais.
Mais Dubaï tient à son image de marque.
Dubaï n'est pas un conte de fées, c'est un conte chèque. C'est pas un pays, mais une ville mise en scène, une riviera et des tours spectaculaires d'eau au désert. C'est l'émirat des superlatifs. Hong Kong pour les affaires, Orlando pour les loisirs, avec un air de liberté et ce parfum d'Orient qui faisait le charme de Beyrouth. L'émir veut en faire la première destination touristique au monde. C'est déjà la troisième. Les Émiratis représentent 10% des habitants. Tous les peuples s'y côtoient en paix. Même les Israéliens sont les bienvenus. Dubaï, c'est la promesse de la mondialisation. Pour que ça tienne, il y a une monarchie absolue, sans aucune élection, à aucun niveau que ce soit. Un régime cruel qui n'hésite pas à jeter dehors 4000 Palestiniens jugés trop proches du Hamas.
Oui, sauf qu'avec le Covid, Vincent, la fête est finie.
Ils ont fait le contraire de ce que nous avons connu. Les masques pour tous, tout le temps et tout de suite. Les restaurants rouverts au bout d'un mois. Et toute la population vaccinée d'ici quelques semaines. Mieux, Dubaï se prépare au tourisme vaccinal. À vendre des packages, tout compris hôtels et deux injections pour les étrangers qui auront les moyens de passer 10 jours sur place. La seule et la dernière à rester confinée sera bien la princesse Latifa.
Ouais, le regard international de Vincent Hervouet et le chef de la diplomatie britannique Dominique Raab s'en mêle. Hein, il demande des preuves de vie. Il parle d'un cas inquiétant et on a aussi entendu la haute commissaire de l'ONU, hein, Michelle Bachelet, qui a fait savoir qu'elle allait interroger les Émirats sur le sort de cette princesse. Il est 7h23. Deux joueurs de tennis sur un court. Et le public surtout qui exulte. Quand reverrons-nous des spectateurs dans les enceintes sportives? L'édito sport de Virginie Fulpin à suivre, 7h23.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h24, Virginie Fulpin, vous posez donc la question ce matin. Le public dans les stades, c'est pour quand? Les festivals de musique auront le droit à 5000 spectateurs, ça on l'a compris, on en parlait dans le journal de 7h. Alors pourquoi pas les enceintes sportives?
Ouais, vous savez, moi j'ai des réactions assez basiques. Hein. Quand j'ai entendu qu'il allait y avoir effectivement ces festivals et puis des concerts tests au printemps, je me suis d'abord réjouie, normal. Puis la seconde d'après, je me suis dit, mais alors pourquoi on ne ferait pas la même chose dans les enceintes sportives? C'est une question de bon sens. On parle de situations extrêmement similaires. Hein. Les concerts, comme le sport, c'est du spectacle vivant dans des lieux clos, ouverts ou fermés, des soupapes de bien-être pour le public et deux milieux qui souffrent énormément économiquement de la crise sanitaire. Alors si pour une fois, on pouvait éviter d'opposer le sport et la culture et de faire en sorte que ces deux pans essentiels de notre vie renaissent en même temps, sans laisser le sport au bord de la route, ce serait une bonne idée. Le sénateur Michel Savin a interpellé la ministre des Sports en lui demandant de s'engager vers un retour d'un public restreint dans les enceintes sportives. Ça tombe bien, c'est aussi l'idée de Roxana Maracine à nous. Hein. Au ministère, on explique que les contacts sont avancés avec les clubs et les organisateurs d'événements sportifs. Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est oser. On va avoir besoin de cette lueur d'espoir. Je sais bien que la ministre ne va pas claquer des doigts et faire revenir tout le monde dans les stades, mais donner le feu vert au préfet, par exemple, pour qu'il gère au niveau départemental, avec les différents clubs et structures sportives, c'est possible et c'est maintenant qu'on en a besoin.
Et les clubs, ils sont prêts à tester le retour d'un public limité?
Bah, vous croyez qu'ils se tournent les pouces depuis que le sport a lieu exclusivement à huis clos? Hein, évidemment qu'ils se sont préparés. Ils sont très nombreux à avoir des protocoles sanitaires stricts, prêts à l'emploi, que ce soit dans des stades ou dans des stades fermés, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'oublier le handball, le basket ou le volley. Au football, par exemple, l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas est volontaire, par exemple, pour organiser un match test. Alors allons-y, osons redonner de la vie au sport. Le ministère a conscience que les acteurs sont prêts et qu'ils sauront gérer de manière responsable. Si on arrive en fait à prendre des décisions au cas par cas, au niveau local, en échelonnant les départs et les arrivées du public, en faisant attention aussi à dispatcher les spectateurs dans l'ensemble des tribunes, on peut redonner espoir à tout un secteur en crise. Puis mine de rien, ça reviendrait aussi à faire redémarrer l'économie des clubs. Tout ça ne vaut évidemment que si la situation sanitaire ne se dégrade pas, hein, soyons clairs. Mais dans l'état actuel des choses, on peut peut-être donner le coup d'envoi, non ?
Oui, et puis il y a un autre grand événement qui se prépare sans perspective, c'est Roland Garros. On a entendu tout à l'heure sur Europe 1 le président de la Fédération française de tennis qui était l'invité de Théo Manval à 6h40. Gilles Moreton qui dit qu'on peut être confiant, il a bon espoir de pouvoir assurer une jauge, au moins une jauge raisonnable dans les stades de Roland Garros qui font entre 5000 et 15000 spectateurs de capacité. Virginie Fulpin, je suis sûr qu'il y en a un autre qui trépigne, c'est Stéphane Bern qui nous rejoint pour son moment d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais terminer la semaine par un proverbe connu de tous. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais qui est l'auteur de cette maxime éclairante ?
Alors, moi, ça m'en rappelle une autre.
Et moi, je vous le dis, les gars. Chasser le naturiste, il revient au bungalow.
Bon, ça, c'était Franck Dubosc dans Camping, mais je ne savais pas que chasser le naturel, il revient au galop. La vraie expression avait un auteur.
Bon, déjà, je m'incline, Sébastien, devant vos références en matière de 7e art. Partant pour Venosa, dans le sud de l'Italie, à la fin du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Quintus Horatius Flaccus, dit Horace, est un poète latin majeur. On lui doit le Carpe Diem tout de même, ainsi que dans son épître 10, la citation « Naturam expelles forca » Tamen usque recurret. Grâce à Google Traduction, on sait ce que cela signifie, parce que je n'avais pas mon gaffio à disposition. Ça veut dire « chasse le naturel à coups de fourche, il reviendra en courant ». La Fontaine, Boileau vont écrire des vers clairement inspirés d'Horace, mais rendons à César ce qui appartient à Philippe Néricault des Touches, qui connaît vraiment cet auteur dramatique à la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe. On lui doit dans la pièce le glorieux ceci. Je ne vous dirai pas de changer de caractère, car on n'en change point. Je ne le sais que trop. Chassez le naturel, il revient au galop. Dans la même pièce, on lui doit la phrase « La critique est aisée et l'art est difficile ». Et dans une autre, « Les absents ont toujours tort ». Mais quel auteur ? Allez, revenons à notre naturel qui revient au galop. En anglais, on dit « A leopard cannot change its spots ». Un léopard ne peut pas changer ses taches. Et en Espagne, Anque la mona se vista de sea mona queda, traduisez même si la guenon s'habille de soie, elle reste une guenon.
C'est beaucoup plus drôle. Vous êtes d'accord avec ça ?
On garde la version espagnole. Historiquement vôtre tout à l'heure à 16h.
Oui, aujourd'hui on réunit le physicien Isaac Newton, l'homme qui regarde les pommes tomber. Émilie du Châtelet, surnommée Madame Pompon Newton, en référence à sa coquetterie et à son génie des mathématiques, et le journaliste le plus savant de la télé, Jamy Gourmaud, qui sera avec nous cet après-midi. Leur point commun, eh ben, ils ont la science infuse.
Ah ben voilà, avec Mathieu Noël, bien sûr, Stéphane Bern, historiquement vôtre, dès 16h tout à l'heure. À tout à l'heure, Stéphane.
Merci.
7h29 sur Europe 1, la météo, Laurent Cabrol.
De la douceur et de la douceur comme s'il en pleuvait. Il fera 12 degrés à Nancy aujourd'hui, 13 à Strasbourg, 14 à Paris, 15 à Lyon, 16 à Marseille, 18 à Albi, 19 à Bordeaux et 20 degrés à Tarbes. C'est une journée ensoleillée après les brouillards qui sont très nombreux à l'heure où nous parlons. Et ensuite, bien, le soleil sera là, tant bien que mal. Et nous avons tout de même deux poches de pluie. En Bretagne, dans le Cotentin d'abord, dans le courant de la journée, il y a des petites pluies. Et dans le Golfe du Lion, là, ça dure depuis maintenant presque une semaine. Le Golfe du Lion, ce sont des entrées maritimes. Vous connaissez, chers amis. Le soleil sera partout présent dans toutes les autres régions. Et notez bien le temps de cette journée, puisque ce sera quasiment le même temps pour dimanche. Et puisque je parle de l'avenir, eh bien demain samedi, c'est du soleil quasiment partout. Dimanche, ce sera comme aujourd'hui, comme demande le peuple.
Hein eh ben, allez, pas grand-chose de plus. Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Bon réveil avec Europe 1. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 7h30.
Ce manque de liberté, c'est quelque chose d'insupportable. Si j'étais jeune, je me dirais, bon, ben, c'est un mauvais moment à passer, mais on récupérera. Mais moi, j'ai pas de temps pour attendre. J'en ai pas.
Après de longs mois isolés dans leur chambre, les résidents d'EHPAD pensaient enfin retrouver un peu de liberté grâce à la vaccination. Les trois quarts des pensionnaires ont reçu une première dose et pourtant, il va falloir patienter encore un peu, reconnaît le gouvernement. Dans ce journal, la liesse des ingénieurs de la Cité de l'Espace de Toulouse après l'atterrissage réussi du robot Persévérance sur la planète Mars. En Algérie, le président tente d'apaiser les tensions qui secouent le pays avec des annonces fortes. Et puis cap d'écrire un roman en 2 jours seulement. Si oui, le concours littéraire 48 heures pour écrire démarre ce soir.
Juste après le journal, dernier défouloir avant le week-end, Bertrand Chameroy, La Touche Âme. Puis c'est l'une des danseuses étoiles les plus raffinées de l'Opéra de Paris qui va s'installer dans le studio d'Europe 1. Dorothée Gilbert, invitée du tête-à-tête. Je salue Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Sébastien.
Votre édito politique ce matin.
Emmanuel Macron recueille plus de 50% d'opinions favorables. Et ça n'est pas une fake news, c'est un sondage IFOP et on vous explique pourquoi.
À tout à l'heure, 7h50. Vous êtes sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
7 mois de voyage à travers l'espace, de longues minutes d'angoisse et finalement, l'exploit, mission réussie pour le robot Perseverance qui s'est posé sur Mars sans encombre. Une opération suivie de très près par les ingénieurs de la Cité de l'espace de Toulouse qui travaillent depuis des années sur des outils à son bord, notamment la Supercam qui permettra d'analyser des roches à la surface de la planète rouge. Alors forcément, hier soir, quand le rover a touché Terre, c'était l'explosion de joie. Benjamin Péter.
C'est la délivrance. Après 11 minutes d'angoisse, les nouvelles sont bonnes et les ingénieurs réunis devant l'écran géant de la Cité de l'espace exultent. Philippe Caïs est l'ingénieur en chef en charge de la Supercam embarquée. Pour lui, c'est l'assurance d'avancées scientifiques pour les 10 prochaines années.
On est extrêmement soulagés parce que ça arrive, les accidents, on le sait. Maintenant, la science peut prendre le relais. Ce qu'on va faire avec Perseverance, le rover, et puis en particulier avec Supercam, c'est sélectionner les cibles qui vont permettre d'être ramenés sur Terre. Donc on va prendre des cibles, les mettre dans des capsules et les ramener sur Terre en 2030.
Alors Supercam a notamment été conçu ici. Sa structure a été construite par Comat, une petite PME à côté de Toulouse. Et son patron Benoît Moulas n'en revient pas de participer à une telle aventure.
On est super fiers, on est super contents. Ça nous fait participer à l'exploration spatiale. Rendez compte, aujourd'hui c'est pour essayer de découvrir s'il y a la vie sur Mars. De participer à cette chaîne, cette construction de savoir-faire, on est super contents, c'est fou.
Alors, il reste à s'assurer que tout marche bien. Ce sera l'objet de tests demain. Et dans le courant du week-end, le mât va se déplier pour permettre de recueillir les premières images en couleur et les premières analyses des roches martiennes. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
L'autre grand titre ce matin sur Europe 1, la durée d'isolement des malades du Covid va passer de 7 à 10 jours. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, veut éviter que la digue sanitaire ne lâche face aux variants du virus.
Et pendant ce temps, la vaccination se poursuit. Plus de 3,5 millions de Français ont déjà reçu une première dose. Et ça y est, plus d'un million ont reçu les 2 piqûres. La stratégie gouvernementale était de donner la priorité aux personnes âgées, notamment dans les EHPAD. Mais alors, maintenant que la campagne de vaccination est bien avancée, comment envisager la suite ?
Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
On va commencer avec un constat. Désormais, dans les EHPAD, la majorité des pensionnaires sont vaccinés, ça y est ?
Oui, 3 résidents sur 4 ont reçu au moins une injection du vaccin Pfizer ou Moderna et 1 résident sur 3 a déjà reçu les 2 piqûres. Cette immunité change considérablement la donne de l'épidémie puisque les personnes âgées qui vivent dans ces maisons de retraite représentent 45% des décès depuis le début de la crise sanitaire. Cette vaccination massive devrait aussi permettre de retrouver une vie plus normale dans ces établissements. Et pourtant, le protocole sanitaire est toujours aussi strict, des visites limitées, pas plus de 3 personnes par semaine, 1 demi-heure par visite, c'est parfois moins dans certains EHPAD. Les enfants ne sont pas autorisés à entrer depuis presque 1 an et ces mesures, elles sont de plus en plus compliquées à accepter par les résidents eux-mêmes.
Oui, ça Victor, vous l'avez notamment constaté à la maison Montrepos de Sartrouville en région parisienne. On écoute votre reportage.
Dans cette maison de retraite, un peu plus de 60% des résidents ont reçu les 2 injections du vaccin Pfizer. Madeleine, 94 ans, en fait partie. Elle ne comprend pas pourquoi les règles sont toujours aussi strictes.
On a pris justement ce risque de se faire vacciner. C'était pour avoir un petit avantage dans notre vie.
Et cet avantage ?
Eh bien, on l'a pas. Ce manque de liberté, c'est quelque chose d'insupportable. On n'a rien fait de mal, nous. C'est pas notre faute, ça. On est comme si on était en prison.
À son âge, elle veut profiter au plus vite de ses proches.
Si j'étais jeune, je me dirais, bon, bah, ça m'a un moment à passer, mais on récupérera. Mais moi, j'ai pas de temps pour attendre. J'en ai pas.
Vanessa Rino, directrice de cette EHPAD, plaide également pour un assouplissement du protocole sanitaire.
Je pense que les résidents se sont fait vacciner dans le but de retrouver un semblant de vie. Et je suis tout à fait dans cette optique. Donner un peu plus d'accès aux familles, laisser un peu plus de liberté aux résidents. Il faudrait vraiment assouplir les règles qu'il y a en ce moment.
Mais cette directrice le sait, elle doit composer en permanence entre les résidents vaccinés qui réclament plus de liberté et la protection des seniors pas encore immunisés.
Et on le disait hier soir, Olivier Véran donnait sa conférence de presse hebdomadaire sur le suivi de l'épidémie. On en a profité du coup pour lui poser cette question.
Bonjour, Hélène Terzian pour Europe 1. Plusieurs pensionnaires nous ont confié qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les règles étaient pourtant toujours aussi strictes dans les EHPAD, notamment les visites restreintes. Qu'est-ce que vous leur répondez, monsieur le ministre ?
Je comprends encore une fois parfaitement la demande, elle est légitime. J'ai dit tout à l'heure, dans mon intervention, qu'on serait bientôt en mesure de dire si la vaccination en EHPAD permet d'éviter les formes graves, d'éviter les hospitalisations. Quand nous aurons ces données fiables, aucun pays européen encore ne dispose de données publiées fiables de ce point de vue-là. Et j'espère, comme vous, j'imagine, puisque vous me posez la question, et comme les 700 000 résidents en EHPAD et toutes leurs familles, que nous pourrons lever davantage les contraintes sanitaires qu'ils subissent depuis maintenant un an.
Le dossier de la rédaction ce matin, réalisé par Victor Dolande et Hélène Terzian. Dans l'actualité aussi, Patrick Poivre d'Arvor, accusé de viol par l'écrivaine et vulgarisatrice scientifique Florence Porcel. Elle reproche aux journalistes vedettes du 20h de TF1 des rapports sexuels non consentis en 2004 à 2009, des faits fermement récusés par PPDA.
À 7h37 sur Europe 1, l'actualité à l'étranger, c'est le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui annonce la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections législatives anticipées.
Des annonces fortes pour tenter de calmer la fronde politique et sociale qui secoue l'Algérie. Le président Tebboune qui souhaite jouer l'apaisement.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale populaire. J'appelle à des élections qui soient affranchies de l'argent, qu'ils viennent de la corruption ou non. Il faut ouvrir les portes à la jeunesse.
Et le président Abdelmadjid Tebboune, un autre geste d'apaisement de sa part, la promesse d'accorder la grâce présidentielle à une cinquantaine de militants du Hirak, ce mouvement de contestation populaire qui fête en ce moment son deuxième anniversaire.
C'est une grosse victoire que vient de remporter la ville de Paris face aux plateformes de location comme Airbnb. La Cour de cassation juge la réglementation de la capitale conforme au droit européen.
Une réglementation surtout justifiée pour lutter contre la pénurie de logements. La mairie de la capitale va donc pouvoir reprendre les poursuites judiciaires jusqu'ici suspendues contre plus de 400 bailleurs en infraction. Et Élise Dangean, elle va aussi pouvoir mieux réguler les locations touristiques.
Et oui, à partir de maintenant, plus d'ambiguïté. À Paris, il y a désormais trois règles à respecter. La première concerne les propriétaires qui mettent leur résidence principale en location. Maximum 120 jours par an, c'est le plafond à ne pas dépasser. La plupart des litiges en cours concernent d'ailleurs cette règle, jusqu'ici peu respectée. Pour ceux qui souhaiteraient mettre en location une résidence secondaire, il faudra d'abord faire une demande d'autorisation auprès de la mairie de Paris pour obtenir un changement d'usage, d'habitation vers activité commerciale. Et puis dernière règle, sûrement la plus contraignante, il faudra compenser les mètres carrés perdus en achetant un local commercial dans le même quartier, à minima de surface équivalente, pour le transformer en habitation.
Explication d'Élise Dangean.
On va terminer ce journal avec le coup d'envoi ce soir de la 4e édition du concours de nouvelles. 48 heures pour écrire.
Oui, on connaîtra son thème à 20 heures précises. C'est un concours déconseillé à ceux qui souffrent de l'angoisse de la page blanche, car comme son nom l'indique, les candidats auront 48 heures et pas une minute de plus pour proposer leur œuvre. Nicolas Caro.
À vos marques, prêts, écrivez. Ce soir, quelques milliers de candidats seront sur les starting blocks dans leur bureau, devant leur ordinateur, avec beaucoup de café et des barres énergétiques. Animar, la directrice des 10 livres, organise le concours et donnera le top départ ce soir à 20h.
Et le thème là sera dévoilé avec les contraintes. Le début, la première phrase de la nouvelle, le nombre de signes. Il y aura peut-être aussi un mot. Il faudra retrouver un mot-clé. Ils auront jusqu'à dimanche 20h pour nous remettre leurs nouvelles.
La dernière fois, le thème était « Rencontre surnaturelle ». Julien Ruffaut a remporté le deuxième prix. Voici ses conseils.
Je ne me suis pas préparé plus que ça. J'ai vraiment attendu que le thème soit dévoilé. C'est important que je sois bien reposé du coup. Avant, je dors bien. Je passe une bonne nuit. J'essaie de me mettre dans des conditions vraiment calmes. J'écrivais quand j'en avais envie au début. Si par exemple à un moment je sentais que j'ai plus envie, j'ai envie d'arrêter, j'ai vraiment envie de faire une pause, je ne me forçais pas.
Et qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien les 10 meilleures nouvelles de cette année seront publiées dans un recueil.
Eh ben bon courage aux participants. Nicolas Caro.
C'était le journal de Sophie Echan, il est 7h40.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Notez qu'à 8h15, tout à l'heure, Sonia Mabrouk reçoit la ministre des Armées, Florence Parly. Il sera question notamment de la lutte contre le terrorisme. Mais d'abord, un moment de grâce dans ce 7-9. Non, c'est pas vous, Bertrand Chameroy. C'est Dorothée Gilbert, la danseuse étoile, qui est mon invitée dans le tête-à-tête Europe Matin. Juste après vous, Bertrand.
Bonjour Sébastien, bonjour. Il me semble que vous avez omis de traiter une info capitale. Je répare cet oubli dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1 pour la touche à main.
Europe Matin, le
le 7-9.
Sébastien Krebs.
7h42 sur Europe 1, c'est l'heure de La Touche Âme, le regard aiguisé de Bertrand Chameroy sur l'actualité.
Bonjour Sébastien, pour terminer la semaine, une information et pas des moindres. Je suis très étonné que vous ne l'ayez pas évoquée. Je pensais que c'était une matinale d'information, mais il semblerait que vous soyez passé à côté.
Ça peut arriver.
De cette info avec un grand I, une actu chaude, tellement chaude qu'il est préférable de la manipuler avec des maniques sous peine de se brûler les doigts ou que c'est bouillant. Je ne parle pas de persévérance sur Mars, mais de la prise de poids d'Emmanuel Macron. Oui, le président de la République a grossi, une info capitale rapportée par l'Élysée au magazine Challenge qui s'est empressé de la relayer, ce qui prouve que le régime de l'Élysée, j'aime la com, fonctionne. On est tellement sûr que ça va vous intéresser, on est tellement sûr que vous allez la publier qu'on vous offre cette info sur la prise du poids du président. Oui, cette information est gratuite. La source anonyme qui précise auprès de l'Hebdo, je cite, qu'il s'agit d'un événement positif, preuve que le chef de l'État est en forme pour aborder la suite. Une nouvelle dont l'Élysée se félicite, nous apprend Challenge. Ah bah, ils ont des joies simples. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On a des vaccins pour tout le monde? Non. On a trouvé une solution pour les étudiants au bout du rouleau? Non, mieux. Quelqu'un a coupé Internet à Marlène Schiappa? Non, encore mieux. Emmanuel a pris du poids? Mais c'est génial. Appelez Challenge, il faut absolument que les gens le sachent. Quelques kilos de plus qui lui donnent de la densité, de la maturité, selon la source de Challenge. Un champ lexical très intéressant, on ne dit plus « tu as grossi, mais dis donc, tu serais pas un peu trop mature pour ton 36 ?» L'occasion de remettre les pendules à l'heure alors que certains se gaussent de lui depuis des années en le dépeignant comme le Pantagruel du Sénat. Je demande que justice soit faite pour Gérard Larcher. S'il a un léger penchant pour le Saint-Doux et qu'il n'hésite pas à se servir trois fois du civet de sanglier le midi, ce n'est pas de la gourmandise, c'est de la maturité. Gérard Larcher est un sage, sans doute le plus sage de la classe politique, c'est le Lao Tseu du Sénat. Il était important de le rappeler. Voilà, je redoutais ce moment, mais il arrive à pas de géant. C'était notre dernier moment partagé ensemble à 7h40, Sébastien.
Ah bah, peut-être pas le dernier non plus.
Lundi, le chevelu Mathieu Béliard sera de retour, oui, bronzé, reposé. Dans quelques secondes, nous allons reprendre chacun nos vies, nos chemins. Ah oui. On en aura vécu des choses en 5 jours. Que
on
de souvenirs.
On a commencé cet été.
Ah oui. Je me rappelle de cette fois où vous m'aviez dit « Bonjour Bertrand ». Et je vous avais répondu « Bonjour Sébastien ». Ah, j'ai l'impression que c'était hier, mais la garde partagée s'arrête ici. Bientôt, ce sera à votre tour de souffler un peu. Et vous le méritez. Se lever aux aurores pour se fader des éditos sur la loi séparatisme, c'est pas une vie, ça. Allez, vol, petit papillon, ton destin t'attend. Ce rire mi-amusé, mi-consterné va me manquer, mais on se retrouvera un jour ou l'autre. Mon Seb, mon Sébastien, mon Sébastien.
Bertrand Chameroy, il est complètement fou. Bertrand Chameroy, La Touche Âme, avec Mathieu Béliard, bien sûr, lundi, mais la dernière de la semaine.
Mais oui, on se retrouvera, j'en suis certain.
À bientôt, Bertrand. 7h45.
Le 7-9.
Ça fait presque un an que l'Opéra de Paris n'a pas accueilli de spectateurs. L'horizon se dégage pour les festivals, mais pas encore pour les salles fermées et encore moins pour les grandes salles de Bastille ou de Garnier. Mon invitée ce matin est l'une des danseuses étoiles les plus talentueuses de sa génération. Elle vient nous présenter la plateforme de cours de danse qu'elle lance sur Internet. Dorothée Gilbert, dans le studio d'Europe 1.
Le tête-à-tête.
Sébastien Krebs.
Bonjour Dorothée Gilbert.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin en direct. Vous êtes lève tôt? On répète tôt à l'Opéra de Paris?
Non, pas du tout.
Bon, alors merci encore plus de vous être levé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les couloirs, dans les salles de répétition, sous les toits du Palais Garnier? On entend encore les pas des danseurs? On répète?
Oui. On les entend, on répète, on a quand même la chance de pouvoir venir tous les jours pour s'entraîner, répéter les ballets qui sont censés être présentés au public dans les semaines à venir. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de spectacles, comme vous le savez tous. Donc, on suit le cours de la saison, comme c'était prévu. Et puis, quand arrivent les spectacles, soit on le filme pour la plateforme de l'opéra, l'opéra chez soi. Ouais. Soit on passe directement au spectacle d'après et voilà.
Vous devez être sur scène, si on regarde le programme de l'Opéra de Paris, pour Le Parc, ouais, à partir du 8 mars. Le 8 mars, c'est bientôt. Vous oui. y croyez vraiment?
Non.
Non.
Non, non.
Répéter un spectacle en sachant qu'on ne le jouera probablement pas, quelle bah, exigence?
C'est dur parce que quand on se prépare pour un spectacle, on le prépare pour le public. Évidemment, on le prépare aussi un peu pour soi, pour se maintenir en forme, pour apprendre de nouvelles chorégraphies éventuellement. Mais c'est surtout pour le présenter devant le public. Quand on travaille finalement avec aucun but, c'est compliqué.
Vous arrivez à garder l'énergie, de rester au meilleur niveau?
L'énergie, la volonté, oui. Maintenant, rester au meilleur niveau. C'est vrai que tant qu'on n'a pas les spectacles, le danseur pousse pas son corps à l'extrême et donc on n'est pas à fond dans la résistance, dans la forme. On est à peu près à 60% à l'heure actuelle parce qu'il faut vraiment qu'il y ait les cours, les répétitions et les spectacles pour avoir une forme olympique, on va dire.
Oui, c'est la pression qui tient aussi et qui pousse, et qui pousse les limites. Vous voyez la saison reprendre d'ici l'été ?
J'aimerais me dire que peut-être en juin-juillet, on pourra faire Roméo et Juliette, mais je ne sais pas. J'ai peu d'espoir.
Vous avez entendu la ministre de la Culture qui était tout à l'heure dans le journal de 7h d'Europe 1 pour annoncer des perspectives pour les festivals d'été, les concerts en plein air, mais toujours rien pour les salles fermées. Je vous donne l'occasion de lui adresser un message à la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Si vous devez lui dire quelque chose, qu'est-ce que vous voulez lui dire ?
Bah que la culture, la danse, les spectacles, c'est la médecine de l'âme. Donc tout le monde en a besoin et c'est important qu'on puisse rouvrir le plus rapidement possible avec des conditions sanitaires précises, évidemment. Mmh. Mais voilà, je pense que tout le monde en a besoin. Mmh.
La ministre de la Culture, hein, bien sûr, c'était un lapsus. Alors en attendant, Dorothée Gilbert, vous allez vous diversifier puisque vous venez nous présenter une plateforme vidéo que vous lancez sur Internet. C'est votre masterclass. C'est un résultat de cette période de confinement pour toucher le public différemment ?
C'est ça. Pendant le premier confinement, je me suis posé la question comment les jeunes arrivaient à travailler tout seuls chez eux. Parce que déjà pour nous, en tant que professionnels, c'était difficile alors qu'on sait exactement ce qu'on doit travailler, on connaît notre corps parfaitement. Et voilà, j'avais envie de pouvoir transmettre des conseils, des cours à des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui ont envie de faire de la danse, de commencer ou de se maintenir en forme. Et puis évidemment, le meilleur moyen en ce moment, c'est évidemment Internet et puis les plateformes.
Des cours de danse qu'on peut faire à la maison ?
Oui, à la maison. Il y a beaucoup de bars, il y a des cours en entier qu'on peut faire aussi chez soi. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais ouais. C'est mieux que rien.
On va en écouter un petit extrait.
Dégagé, fermé et demi-plié. On tient toujours bien le dos, on commence à décortiquer les pieds, on réveille son corps tout doucement et demi-plié, on monte pendant que les genoux plient.
Alors, nos auditeurs n'ont pas l'image, hein, mais il faut voir les étirements. Oui. Vous avez la jambe à la verticale derrière. c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour le premier venu. Il faut quand même avoir un certain niveau.
Il faut avoir un certain niveau, mais je compte mettre des cours pour débutants, justement, bientôt. D'accord. Et puis, j'ai déjà tourné des vidéos de ballet training. C'est une sorte de fitness mélangé à des mouvements de danse que n'importe qui peut faire.
Donc, il y aura des choses pour...
Pour tout le monde.
Pour des débutants. Sinon, c'est essentiellement pour des danseuses qui ont envie de s'entraîner, qui ne peuvent peut-être pas. Les cours de danse amateurs en intérieur, ça n'existe plus en ce moment.
En ce moment, non. Justement, c'est pour ça aussi. Je pense que c'est important de pouvoir continuer à faire rêver les gens aussi avec la danse, avec la musique. C'est important de bouger son corps et de pouvoir continuer à s'entraîner. Si on en a envie, si on a cette passion, c'est important de la maintenir et de pouvoir la faire.
Ballet Masterclass, le site internet donc de Dorothée Gilbert que vous retrouvez sur cette plateforme. 150 € l'année. C'est l'abonnement pour avoir accès à l'ensemble des vidéos. Dorothée Gilbert, vous êtes danseuse étoile depuis 13 ans, je crois, maintenant. depuis le 19 novembre 2007, voilà, j'ai noté la date. On voit l'exigence que ça représente toutes ces années sur scène. C'est une carrière qui est forcément assez courte, la carrière de danseur étoile. Vous préparez déjà l'après ? C'est une façon déjà de vous mettre dans l'après, cette plateforme ?
Oui, évidemment. J'espère qu'elle va continuer de vivre. J'ai plein d'idées, plein d'envies. C'est une façon de penser à l'après, à penser comment transmettre tout ce que j'ai appris. Transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir aussi en tant que jeune danseuse de 10 ans venant de Toulouse qui n'avait pas la possibilité de voir de près les danseurs de l'opéra. Donc c'est aussi, je pense à ça. Et puis voilà, peut-être d'autres choses aussi.
Et faire rêver peut-être, déclencher des vocations, enseigner, ça peut aussi être un projet.
C'est un peu ça, hein, la plateforme, voilà, c'est déjà un peu un enseignement. Après, c'est vrai que c'est même plus difficile parce qu'on n'a pas les élèves en face. Donc, il faut essayer de se projeter en essayant d'imaginer les élèves, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour donner des corrections et anticiper les éventuels ajustements qu'il faut faire.
Aujourd'hui, vous avez encore envie de la scène ?
Ah oui, évidemment. Plus que jamais, après un an sans public, plus que jamais.
Il y a un autre défi pour l'Opéra de Paris qui est engagé, c'est celui de la diversité. Les conditions de recrutement de l'Opéra vont être revues. Ça a été annoncé très récemment pour encourager l'arrivée de davantage d'artistes non blancs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit jamais de danseurs ou de danseuses noires sur la scène de l'Opéra de Paris.
Oh, il y en a. Il y en a quelques-uns. C'est vrai que proportionnellement, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Après, je pense que c'est important d'ouvrir le dialogue, de lancer des pistes de réflexion et que c'est d'actualité. C'est important d'en parler.
Il y a encore trop de stéréotypes, de clichés sur la morphologie, les corps.
Oui, je ne sais pas. Je pense que, en fait, peut-être il y a les personnes de couleur ne se visualisent pas en tant que danseurs classiques parce qu'il n'y a pas assez d'images qui les représentent dans l'histoire et puis encore aujourd'hui. Donc c'est important de changer ça.
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour les 5 ans qui viennent à l'Opéra ? Vous avez un rêve ? Un manque ? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait ?
J'ai des ballets que j'aimerais faire, mais en fait, c'est surtout vivre des beaux moments en scène avec le public et mon partenaire. C'est le plus important.
Merci beaucoup Dorothée Gilbert d'être venue ce matin dans le studio d'Europe 1. Très belle journée à vous.
Merci. Au revoir.
Sur Europe 1. Et c'est l'heure de l'édito politique de Catherine Ney dans quelques secondes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h05 sur Europe 1. Catherine Ney m'a rejoint pour l'édito politique. Catherine, Emmanuel Macron caracole à 50% d'opinion favorable et il entraîne dans son sillage Jean Castex à 48%. C'est un sondage IFOP. Comment on explique cette embellie ?
Mais 50%, vous vous rendez compte, ça n'était pas arrivé depuis avril 2018, avant l'affaire Benalla, avant la crise des Gilets jaunes, autant dire l'éternité. Et cette remontada survient 3 semaines après sa décision de ne pas imposer un troisième confinement aux Français, et ce, contre l'avis des experts scientifiques, contre l'avis de ses ministres, dont le premier d'entre eux est celui de la santé. Bon, les chiffres de l'épidémie sont toujours hauts, mais stables. Les restrictions sont toujours là et vont continuer. Olivier Véran l'a rappelé, because le variant anglais que l'on suspecte d'affecter plus durablement ses victimes. Mais le président a gagné son pari. Aucun opposant n'a remis en cause sa décision et l'économie n'est pas complètement à l'arrêt.
Et ce redout de l'opinion, vous le pensez durable ?
D'abord, ces chiffres ne constituent en rien une projection électorale pour la prochaine présidentielle. Emmanuel Macron est toujours à la merci d'un retournement de situation. Le variant anglais progresse dans certaines régions, le danger est toujours là. On saura à partir de début mars ou à la fin si l'on peut un peu respirer. Pour l'heure, le président vit en cohabitation avec la Covid et pas avec l'opposition qui, sur ce terrain, n'est pas capable de le mettre en difficulté. Mais tout se jouera sur sa capacité à piloter la crise économique qui va suivre, ce qui rend imprévisible la fin du quinquennat. Parce que dans ces sondages, on voit qu'il y a une adhésion raisonnable, mais sans beaucoup d'affect.
Ouais, et puis il faut aussi qu'il tienne ses promesses de vacciner tout le monde.
Et oui, tous ceux qui le souhaitent avant la fin de l'été. Le président a dit cela le 2 février, ce qui signifierait un retour à la quasi-normale au moment des vacances. Le rêve. Mais vous remarquerez que depuis, il n'en parle plus. C'est que dans le pays, il y a plus de demandes que d'offres. Et l'on voit que les plus réfractaires à la vaccination d'hier sont devenus aujourd'hui les demandeurs les plus exigeants. Mais l'arrivée des vaccins ne dépend pas de lui, la France n'ayant pas été capable de fabriquer le sien. Grosse humiliation pour nous tous. Donc, sa promesse forte pourrait devenir un boulet si la vaccination pour tous ne suit pas derrière. Il faut pour lui que cette campagne soit un succès, sinon on lui rappellera le ratage des masques, des tests, donc une mauvaise gestion.
L'édito politique signé Catherine Ney. 7h58 à suivre le journal de 8h avec François Geffrier. Mais d'abord la météo avec vous Laurent Cabrol et cette grande douceur qui nous arrive pour le week-end.
Oui. Elle nous arrive du Sahara, l'air doux vient du Sahara. Aujourd'hui, c'est la moitié sud qui s'enveloppe dans cet air chaud, surtout. Un air chaud qui est légèrement ensablé, vous en apercevrez peut-être. Samedi et dimanche, demain après-demain, ce sera très doux également. Mais le ciel ne sera pas limpide, non, comme un soleil dans le gris du ciel. Alors que les éclaircies vont se généraliser samedi, elles seront un peu plus discrètes dimanche. Dimanche, en fait, ce sera le même temps qu'aujourd'hui, je vais vous dire lequel. Et puis lundi, parenthèse un peu humide, mardi, mercredi, du soleil. Alors je reviens à la journée d'aujourd'hui, puisque nous, aujourd'hui, après les brouillards, Montbéliard, qui sont très nombreux, nous aurons de très belles éclaircies sur tout l'ensemble de la France, mais deux poches vont subsister, deux poches de pluie, la première sur la Bretagne et le Cotentin, et la seconde dans le Golfe du Lion. Nous avons là, dans le Golfe du Lion, eh bien, des entrées maritimes, vous le savez, vous le connaissez, vous y êtes habitués, ça fait plusieurs jours que ça dure. Alors les températures, parlons-en maintenant, partout ailleurs, je disais, ce sera du soleil. Température rapidement, 12 degrés à Nancy cet après-midi, 13 à Strasbourg et Belfort, Paris, Nantes, Rennes, La Rochelle, 14, Nice, Lyon, Poitiers, Marseille, Toulouse, Limoges entre 15 et 16, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Dax et 20 degrés à Tarbes. Voilà, vous réjouissez-vous si vous le souhaitez, mais enfin, dites-vous que le froid n'est pas encore parti. Non, 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 laissez les doudounes de côté, c'est tout, voilà.
Bon, hein, ça c'est le petit hic du jour. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.